12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Le point commun entre les deux romans dont nous débattons ce midi, c'est d'abord que leur intrigue se déroule en France. Simple, banal. Et dans les deux cas, on frôle le fantastique, voire même la science-fiction, mais on la frôle seulement. Car au début, tout y paraît tout à fait normal, banal. Dans Alien de Phoebe Adimarcos-Clark, une jeune fille est payée pour faire du dog-sitting, garder le chien des parents d'une amie. Quant à lui, le premier tome du volume du temps de Solveig Balle débute par une description sensorielle des bruits du quotidien dans une maison.
Et on en parle avec vous, François Angelier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur de l'émission Mauvais Genre, c'est
et
tout...
Oui. Oui, oui.
Eh bien,
merci
de... c'est tous les dimanches à 15h sur France Culture. Et bonjour à vous, Romain Debecq-Delièvre.
Bonjour.
Vous êtes producteur sur France Culture. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture.
Nous commençons ce débat critique avec Alien de Phoebe Adimarcos-Clark aux éditions du Sous-Sol.
Les chiens, c'est que Fauvel n'en a jamais raffolé. Ils ne lui déplaisent pas, c'est juste qu'elle ne ressent pas l'affection débordante que certains leur témoignent, ni même de connivence. Pas spécialement, en tout cas. Les raisons à cela n'ont rien d'exceptionnel. Elle trouve les chiens empressés, trop serviles, et puis ils donnent l'impression de manquer de finesse ou d'élégance, avec leurs grosses pattes poilues et l'odeur que l'on sait. Ok, Fauvel n'a jamais adoré les chiens, mais c'est peut-être parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'en rencontrer un pour de vrai. Pourtant, ça y est. La voilà enfin face à une chienne avec laquelle, en plus, elle devra cohabiter.
On ne peut pas dire que la rencontre entre Fauvel et Anna, la chienne qu'elle va devoir garder, ait été très chaleureuse. Elle débute même par une vexation. Quand Fauvel tend la main vers la chienne, Anna la regarde, mais lui donne pas la patte. Luc, le propriétaire et père de Mado, l'ami de Fauvel, tente de faire une diversion et lui fait alors visiter la maison. « Tu verras, Anna est une chienne assez particulière, lui dit-il. » Et c'est peu de le dire. Cette chienne est un clone d'une première Anna qui trône empaillée dans le salon, terrifiant pour Fauvel. Mais pas seulement. Le village aussi craint ce clone, d'autant plus quand on découvre des animaux massacrés quand elle rentre ensanglantée de ses fugues nocturnes. Mais il n'est plus temps de refuser ce job. Luc part pour un très long voyage et Fauvel a besoin de cet argent, mais aussi de se mettre au vert. Fauvel a quitté la ville pour Cournac, coin paisible, proche de la nature. Fauvel aussi a son histoire, un œil perdu dans une manifestation, une enfance traumatisée par les violences de son beau-père. L'angoisse, la peur, la violence augmentent à fur et à mesure que Fauvel entend des bruits menaçants autour de la maison. Elle veut savoir ce qui se passe ici. Juste des chasseurs, avez voulu rassurer Luc, avant de partir sans convaincre. Avez-vous, vous, Romain Debecq-Delièvre, été convaincu par ce roman ?
Oui, absolument. Alien, donc titre emprunté évidemment au film de Ridley Scott à l'époque. C'est un roman extrêmement dense, extrêmement touffu, qui va puiser dans beaucoup de genres. Le roman d'invasion, c'est-à-dire l'invasion de la maison, l'abduction par les extraterrestres, le rapport entre l'homme et l'animal. Il y a toute une vogue actuellement des romans du vivant et de la confrontation et de la réflexion sur l'hybridité entre l'animal et l'humain. Et ça croise aussi la question du cyborg avec ce chien cloné. On peut penser aussi à Caddy, au mouton électrique un peu. Il y a quelque chose de cet ordre. Oui, j'étais emporté par ces un style aussi très 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 singulier de Phoebe Adimarcos-Clark qui allie des registres extrêmement différents, un langage très très vulgaire, quotidien et très contemporain, et des espèces d'envolées aussi métaphysiques et psychiques, et quelque chose de toujours très très sensible qui est de l'ordre de la perception et de l'organique.
François Angelier, avez-vous vous aussi vu piocher tous ces genres, toutes ces références, et qu'est-ce qui en fait selon vous aussi l'unité ? Qu'est-ce qui nous fait rentrer dans ce roman ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. C'est un roman Frankenstein, au sens de la créature de Frankenstein, avec une tentative aboutie, réussie à la fois sur le plan matériel, puisque c'est un livre qui se regarde. Il y a tout un travail de composition du texte avec les caractères, avec les signes de ponctuation, une espèce de manière presque presque malarméenne, ce qui est assez curieux dans un récit de ce type, de déhancher, de casser la narration. C'est très réussi, à la fois sur le plan des genres, parce qu'on a à peu près tous les genres. Il y a la science-fiction avec cette histoire de vivre au quotidien avec un animal cloné, ce qui relève de la science-fiction. Une espèce de hantise, la Ménielquin, cette espèce de cohorte de chasseurs qui passent dans le ciel au Moyen-Âge, les âmes des damnés. Donc on est dans un fantastique presque folklorique, c'est presque du Claude Seignolle par moment. Il y a une dimension politique avec le fait que l'héroïne Fauvel a perdu un œil lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Il y a toute une dimension érotique, puisque effectivement sa copine Mado est plus ou moins... est incapable visiblement de résister à toutes les pulsions qui la traversent, voilà. Et puis il y a toute une espèce de contre-histoire, puisque c'est ce massacre d'animaux, ces mutilations d'animaux rappellent des dossiers bizarres aux États-Unis, notamment de mutilations de bétail dont on disait qu'elle avait été pratiquée par des extraterrestres avec des lasers, l'anus, le sexe des animaux au Nevada. Donc c'est vraiment frankensteinien, c'est-à-dire que Phoebe Haji Marcos Clark a véritablement ramassé sur sa table d'opération tous les types de narration, de récits de fiction, d'imaginaire d'aujourd'hui, pour arriver quand même à un alien qui marche et qui fonctionne très très bien.
Alors avec quoi est composé ce fil pour avoir réussi à coudre ensemble effectivement tous ces éléments? Qu'est-ce qui fait que du début à la fin, Romain de Beguyev, on reste dans cette histoire qui, au début, paraît effectivement banale, et puis au fur et à mesure, il y a cette horreur qui monte, cette angoisse. Il y a presque aussi un peu du polar, parce qu'il y a une forme d'enquête, évidemment. Alors, allez-y, Romain.
Ce qui unifie les choses, il y a d'abord ce travail sur la langue, et il y a ce fait que cette intrigue est très particulière parce qu'elle progresse par à-coups successifs. C'est-à-dire, c'est pas une grande intrigue qui tient d'un seul tenant. C'est-à-dire, il y a des surgissements du bizarre. Le personnage de Fauvel, qui est une réussite, moi j'ai trouvé assez extraordinaire. Donc à la fois sur la question du genre, c'est-à-dire Fauvel est un genre aussi, c'est étrange ce prénom qu'elle s'est choisi d'ailleurs, ce personnage. Et puis il y a le
très bestial
dedans,
évidemment,
à l'intérieur. Et voilà, et c'est par à-coups successifs, par arrivée de mystère. Il y a la question de la perte de conscience. C'est quelqu'un qui fume énormément de pétards, notamment qu'elle appelle des sdères. Le mot sdère apparaît dans le roman, ce qui est assez joyeux.
Qui vient d'où? C'est un mot qui...
Je ne sais pas d'où ça vient, mais oui. Ça désigne le pétard.
D'accord.
Et c'est chez Booba, comme vous l'avez dit juste avant l'émission.
Et elle a surtout des états de conscience modifiés, c'est-à-dire il y a plein de moments où elle perd connaissance, où elle rêve, il y a aussi cette dimension onirique qui est assez fort. Mais alors ce qui est un peu agaçant actuellement, c'est l'idée de ce serait un roman qui s'emparerait de sujets de société, c'est-à-dire on a parlé des Gilets jaunes, du LBD, et c'est cette ambition à chaque fois de vouloir que la littérature aborde des sujets de société. Là, par exemple, le fait que le personnage ait perdu un œil, elle l'aborde de façon très frontale et très perceptive. C'est-à-dire, l'olfaction du personnage de Fauvel a changé. C'est-à-dire, elle a un rapport physique au monde qui a absolument changé avec la perte de cet œil, avec cet œil manquant. Elle appelle ça l'autre œil en plus. Enfin, il y a toute une réflexion là-dessus. Et c'est une façon très, très crue, très, très corporelle, très, très perceptive de s'emparer de ça. Et c'est ça qui fait la grande unité de ce texte-là et sa grande beauté aussi.
François Angelier Fauvel.
Oui, tout à fait, c'est le grain de la voix, c'est la vocalité du personnage qui est une vocalité qui bouge tout le temps, qui est effectivement en permanence calée, axée sur le corps, sur les perceptions, sur la manière dont le corps induit des idées, des fantasmes. C'est ça qui fait l'unité du livre. À partir du moment où on tient une voix, on ne peut plus en sortir. C'est-à-dire que le récit est axé. Et là, effectivement, on assiste à quelque chose qui est assez prodigieux, puisque tout est fait pour qu'il y ait des dérapages en permanence, des sorties de route. Et ça n'est jamais le cas. Et effectivement, on échappe au préchi-précha idéologique, parce que notamment la question de l'œil, elle est posée sur la seule manière de le poser, c'est-à-dire comment vivre avec cette espèce de nouvelle situation organique, quelle est la vision du monde qui est induite par ça, et comment elle influe sur le récit. Donc, de toute façon, c'est un roman du corps qui parle en permanence, et ça n'est que ça, et je trouve qu'à partir de ce moment-là, le récit va sa vie et son cours sans problème.
Alors, vous nous parlez des questions de société. Vous avez dit, effectivement, les gilets jaunes, les violences policières, dans ce cas de l'œil perdu. Mais il y a d'autres questions aussi qui sont amenées. L'environnement, l'écologie, la sécheresse qui apparaît dans au fur et à mesure du roman. La question animale, parce qu'on en revient toujours, effectivement, à cette chienne, Anna, qui a donc été clonée juste avant que la première meure pour qu'elle poursuivre sa vie avec le propriétaire Luc. Ce rapport entre justement l'humain, l'animal, comment est-ce qu'il est perceptible dans ce roman et comment ça avance ensemble? Est-ce que, le dire très simplement, une grande amitié entre un humain et un chien, c'est assez banal et assez basique?
C'est une question qu'elle aborde très frontalement. Elle pose la question à un moment, elle dit « qu'est-ce qu'un chien au fond ?» Une question qui peut paraître très simple, mais qu'elle aborde vraiment frontalement, c'est-à-dire dans son organicité aussi. C'est-à-dire, c'est un tas de poils, un tas de chair, il y a du sang. Enfin, le chien est décrit vraiment comme ça. Et on a cette espèce de relation d'amitié qui est très très étonnante, qui est très très belle. Il y a une page qui est assez incroyable où elle définit l'amitié comme une espèce de laisse qui est à la fois souple et longue et qui décrit, c'est très très beau, je me souviendrai de cette page, je pense, sur l'amitié comme quelque chose de plastique qui peut se retrouver. Et ça, c'est assez fort. Et cette question du vivant, elle est abordée frontalement avec la question de la chasse aussi. C'est-à-dire, il y a un personnage de chasseur qui s'appelle Julien, qui est à la fois une espèce de personnage un peu fasciste politiquement.
Un peu gourou de la secte des chasseurs.
Il a été abducté par les extraterrestres. Il fait un récit d'abduction par les extraterrestres qui est hallucinant. Les extraterrestres lui font des choses sexuelles un peu étranges. Et il a une charge érotique en même temps. Enfin, c'est un personnage qui est d'un bloc aussi et qui est très, très impressionnant.
François, sur les...
Oui.
Allez-y.
Oui, c'est un personnage, d'ailleurs, Julien, qui est assez monstrueux, parce que il est monstrueux socialement, il est monstrueux psychologiquement, et physiquement, il finit par être aussi monstrueux que une espèce d'ours qui rôde la nuit. Donc, tous les personnages, d'ailleurs, sont frappés par cette espèce de monstruosité. Mais alors, est-ce que c'est dû au regard de Fauvel, qui monstrifie absolument tout le monde, ou est-ce que, effectivement, le personnage est tel? Donc, je trouve que, en plus, il y a une volonté politique assez intéressante, c'est-à-dire qu'elle considère que le projectile qui l'a éborgné a été fabriqué dans les mêmes usines que la balle qui a manqué de tuer le chien cloné. Et qu'en définitive, elle est confrontée à une espèce de force unanime, nocive, toxique, très organisée, qui est le lobby militaro-industriel, si j'ose dire, et qui l'assaille en permanence, elle, avec cette espèce de corps menacé, dans cette maison au sein de la forêt. Donc, c'est un roman qui est quand même très, très, très fort sur ce plan-là. C'est-à-dire que ça joue à la fois sur l'imaginaire folklorique, carnavalesque, presque archaïque, et en même temps sur l'ultra-contemporain. Et ça, sans qu'il y ait de changement de registre, on sent que le changement de vitesse grince. Là, c'est très, très bien noué. C'est un roman, faut le dire, qui, à mon avis, est très, très bien édité.
Roman social, est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Parce que j'ai dit
qu'il y avait de la science-fiction, mais effectivement, vous l'avez dit, ce rapport entre les êtres humains ou animaux d'ailleurs. Il y a toute la partie sur ces chasseurs, ces habitants qui ont été licenciés, qui travaillent dans une usine d'eau minérale dans ce village, qui eux aussi effectivement se retrouvent dans une situation de soumission, d'exploitation.
Là, c'est un petit côté chien de paille, vous voyez, le film de Peckinpah. Cette espèce de communauté rurale, toujours au bord de la crise, où l'alcool sert un petit peu de dopage permanent. Et là, on est dans une espèce de climat un peu au chien de paille. Il faut dire que la langue, comme le disait Romain, change en permanence aussi. Fauvel, ça, c'est comme un classique de la littérature médiévale. Il y a des adjectifs, il y a le verbe ambré, à un moment, il y a ifundibuliforme qu'on trouve chez Lautréamont. Donc on sent que l'auteur a vraiment des lectures qui vont absolument dans tous les sens, depuis le Moyen-Âge, depuis Lamennais-Elquin est cité, jusqu'à Lautréamont, et en même temps, on est dans le contemporain. Donc je trouve que c'est vraiment une sorte de grande réussite sur ce point.
Et c'est un grand roman sur la peur aussi, c'est-à-dire Fauvel, la scène fondatrice, le moment où elle reçoit le LBD au visage, elle s'est dit, c'est un moment de peur fondamentale, et ce motif de la peur revient tout le temps. C'est pas forcément un roman qui fait peur, mais un roman qui travaille la peur en tout cas.
Second roman de cette autrice française, Phoebe Adi Marcos Clark. Vous aviez lu le premier, pas du tout, ou vous découvrez cette autrice avec...
Alors ça donne très envie, parce que le premier roman s'appelle Tabor, et il y a une émission de télé-réalité dans le roman-là qui s'appelle Tabor. Donc je ne sais pas si ça traite de cette émission de télé-réalité-là.
Oui, qui à un moment est évoquée.
Ouais. Donc ça donne envie en tout cas.
Mais il faut saluer aussi le travail des éditions du Sous-Sol, leur directeur Adrien Bosse, qui vient de changer de maison, et dire que c'est quand même une des maisons les plus impressionnantes sur le plan de la fiction et du travail littéraire.
Alien de Phoebe Hadjimarcos-Clark, c'est disponible, on l'a dit, aux excellentes éditions du Sous-Sol.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent du tome 1 du roman Le volume du temps de l'autrice danoise Solveig Balle chez Grasset.
Nous sommes le 18 novembre. Je me suis habituée à l'idée. Je me suis habituée au bruit, à la lumière grise du matin, à la pluie qui va bientôt tomber sur le jardin. Je me suis habituée aux pas, aux portes qu'on ouvre et referme. J'entends Thomas quitter le séjour, retourner dans la cuisine et poser sa tasse sur la table. Tout à l'heure, je l'entendrai sortir dans le couloir, décrocher son manteau, faire tomber son parapluie et le ramasser.
Nous sommes le 18 novembre. Et nous allons le rester dans ce roman intitulé « Le volume du temps ». Le temps n'a qu'un volume, 24 heures, qui se répète un jour sans fin. Il n'y a que Tara, la narratrice, pour s'en rendre compte. Elle se réveille à Paris, dans une chambre d'hôtel. C'est là donc qu'elle comprend que le monde a comme déraillé, c'est comme bloqué. Et c'est donc elle aussi qui nous présente cette maison où elle vit avec son mari dans le nord de la France, dans cette petite ville qui se nomme Clairon-sous-Bois. Elle va donc y rejoindre son mari Thomas qui, chaque matin, est étonné de la voir. Il la croyait à Paris. Alors Tara abdique et cesse de vouloir expliquer tous les matins la situation à son mari et décide de profiter de ce temps, de se prendre en main. Elle s'installe dans une pièce de la maison et fait tout pour éviter son mari, un jeu d'enfant puisqu'elle connaît toutes ses habitudes, les bruits qu'elle produise, une description effrayante de ce que la routine fait à un couple. Alors on connaissait Un jour sans fin, le film, la comédie romantique avec Bill Murray et Andy McDowell. Faut-il faire cette comparaison jusqu'au bout? Et si oui, donc jusqu'à quel point, François Rongelier, peut-on comparer ce livre et ce film? Et quelles sont les différences?
Alors le film est une comédie beaucoup plus joyeuse, affriolante. C'est de l'ordre de la comédie. Là, on est dans un dispositif qui est beaucoup plus angoissant et beaucoup plus effrayant. Alors d'abord, il faut dire qu'il y a 7 tomes à venir.
Il y en a deux qui sortent,
deux sont parus, le 7e est en cours d'écriture. Moi, je me demande vraiment comment le dispositif va évoluer sur 7 tomes, parce que c'est vraiment assez inquiétant. Et je trouve que c'est totalement réussi, parce que là, on est quand même contraint par une sorte de dispositif narratif qui ne bouge pas, mais en même temps, comme on a une fiction qui doit évoluer avec des variations, des changements, des événements, une sorte de mutabilité des personnages, il faut bien que quelque chose se passe. Alors comment faire que quelque chose se passe alors que rien ne doit se passer? Et là, je trouve que c'est assez génial, puisque à coup de petites variations, comme ça, de changements, requalifications des choses, micro-événements, orientations, elle arrive quand même à faire vivre cette situation de blocage. Moi, j'ai été vraiment fasciné. On peut se dire, bon, c'est de la pure virtuosité littéraire. Bon, c'est sûr qu'à côté d'Alien, on n'est pas dans cette espèce d'imaginaire fantastique, horrifique, science-fictive, problème de société. On est dans quelque chose qui est d'ordre de la folie logique. Le temps s'est enrayé, je suis au cœur du temps, je me débats au cœur de cette espèce de marécage chronophagique, là, on est avalé par le temps, je veux en sortir, je ne peux pas, qu'est-ce qui se passe? Et elle arrive avec une langue très dépouillée, très strictement de relationnel, enfin je veux dire, elle relate ce qui se passe.
On est dans une description du détail.
Voilà. Et ça marche.
Très minutieuse.
Très étonnante.
Effectivement, et très étonnante. Vous vous êtes dit aussi, oulala, où est-ce que je vais avec ce premier tome?
Je me suis dit, oulala, oui, parce qu'il y a une phrase qui arrive au début du roman, au milieu du roman, et qui dit « je n'ai plus rien à raconter ».
Bon,
à dire que
on referme le livre.
Oui, voilà. On peut se dire voilà, on peut refermer le livre. Non, alors pas du tout, parce que en fait, le parti pris assez étonnant de Solveig Balle là-dessus, c'est de choisir le huis clos. C'est-à-dire que cette femme donc fait le choix, parce qu'elle est très amoureuse de son mari, il y a une description d'un couple un peu idéal, d'un amour un peu idyllique, et donc ils vont habiter dans la même maison, elle va revivre toujours la même journée, et devoir réexpliquer à son mari à chaque fois qu'elle vit la même journée, puis ne plus expliquer à son mari parce que ça devient fatigant, et vivre à huis clos, et devenir complètement folle à cause des bruits du quotidien qu'elle aura enregistrés, et donc elle va percevoir le quotidien d'une manière complètement... presque Beckettienne. Bon, je vais lâcher un adjectif énorme, voilà, j'ai fait. Il y a un truc Beckettien, c'est-à-dire on a un personnage qui est enfermé et qui va épuiser l'espace, qui va donc connaître par cœur chaque geste, chaque cœur, chaque mouvement d'oiseau, chaque mouvement du ciel, chaque
goutte de pluie qui tombe. Elle anticipe sur ce qui se passe.
Et donc, c'est une succession de spéculations sur qu'est-ce que je suis, etc. Et alors, il y a un petit élément fantastique, parce qu'il y a très peu d'éléments fantastiques, comme a dit François. Mais il y a une chose, c'est que les objets qu'elle achète disparaissent vraiment. C'est-à-dire, le lendemain, elle ne les retrouve plus. Elle achète des choses au supermarché, elle ne retrouve plus l'élément.
Elle ne laisse pas de traces de ce qui s'est passé durant sa journée.
Elle devient une espèce de monstre. Elle se décrit elle-même comme un monstre qui dévore le monde. Et donc, il y a plein d'hypothèses. En fait, c'est une succession dans l'écriture d'hypothèses qui se bousculent les unes les autres et qui remplacent les unes les autres et qui sont assez fascinantes. Il y a celle-ci aussi qui est que finalement, on se rend compte que c'est elle qui continue à vivre le temps et c'est le monde entier qui est une anomalie, en fait. C'est pas elle l'anomalie dans l'histoire. Enfin, il y a plein de retournements comme ça qui sont produits. C'est le monde qui est condamné à revivre la même journée. Et il y a cette perspective. Mais c'est pour ça, oui, ça rend très, très curieux de savoir comment cette autrice-là va se débrouiller dans 6 tomes à étirer cette histoire-là encore plus.
Alors, dans le premier tome, elle reste dans cette maison avec son mari. Et donc, elle revit effectivement cette même journée et elle essaie de combler ce temps qui se répète indéfiniment dans une forme aussi, peut-être, de roman d'apprentissage. Elle apprend à vivre seule, à ne plus vivre avec quelqu'un, effectivement, comme vous le disiez, Romain, que pourtant elle aimait, continuer à vivre dans la même maison quand on n'est plus qu'une moitié de couple, dit-elle dans le tome 2. Et dans le tome 2, on peut le raconter, elle part, puisqu'il est sorti également, elle part cette fois-ci rencontrer ses parents. Et rebelote, il va falloir effectivement expliquer aux parents ce qui se passe, et puis trouver une nouvelle fois, que faire de ce temps ? Que faire de ce temps et comment s'occuper, comment devenir une autre femme, peut-être, François Angelier. On est aussi dans cette idée de...
Il faut trouver une solution. Alors, dans ce tome 1, il faut essayer d'user le temps. Il faut trouver... C'est un peu comme un détenu qui est incarcéré et qui essaie de faire un dossier, un barreau, ou de faire un trou dans le mur, comme le comte de Monte Cristo. Il faut essayer d'user le temps. Mais alors, comment on peut faire pour user le temps, puisqu'on est soi-même fait du temps? Donc, ce serait s'user soi-même. Donc, finalement, il y a une espèce d'usure psychique, d'usure corporelle, d'usure de l'imagination. Donc, voilà, c'est ça. Et bon, le problème, il est là. C'est qu'on n'y arrive pas. On est pris dans une sorte de nasse, et il y a apparemment des espèce d'échappée. Alors, par moments, on se dit « Ah, ça y est, je crois que... Ah, tiens, il est possible que... » Et en définitive, rien. Parce que la chose est une espèce de... Comme ça, on est pris dans une bulle, et cette bulle est totale. Mais, je veux dire, le génie, c'est justement de montrer qu'il y a un tragique dans tout ça.
Et d'ailleurs, elle compte les jours, un peu comme
le détenu. Elle fait des bâtons.
Elle fait des petits bâtons avec.
Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a le 18 novembre 1, 2, 3, 4, et jusqu'au 18 novembre.
Exactement.
Elle vit.
Le 366e jour, effectivement, qui revient sur cette autrice, qui est donc une autrice danoise, on l'a dit, née dans les années 60, qui a publié un premier roman, puis quelques autres nouvelles, et ensuite qui a totalement disparu pendant 20 ans. Elle est allée s'isoler sur une île pour quitter Copenhague, effectivement la capitale, et vivre recluse quasiment sur cette île, en se disant je vais donc écrire ces 7 tomes de ce volume du temps. Est-ce qu'on retrouve peut-être un peu de sa vie personnelle dans tout ça? Est-ce qu'on peut y découvrir une forme de portrait de qui elle est? Ou en tout cas, est-ce que pour écrire ce genre de choses, il faut se mettre dans ce genre de situation?
C'est possible. Il y a quelque chose de l'ordre du confinement, etc. Mais moi, ce qui était très amusant, c'est que je lis peu de littérature scandinave, notamment les grandes sagas de polar, etc. Et je m'attendais à quelque chose comme ça. Et en fait, c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire, on a totalement ce huis clos. On a aussi cette question du couple. Ouais, c'est un grand roman sur la désynchronisation du couple et de ce qui peut advenir quand les temporalités s'entrechoquent et où les choses commencent à différer d'une certaine manière. Mais oui, je pense que c'est assez dur après à déterminer si c'est de l'expérience personnelle ou pas.
Pour certains, oui, François ?
Oui, non, ce que je veux dire, elle s'est enfermée 20 ans pour écrire. Ce serait intéressant qu'elle écrive un huitième tome qui serait l'histoire de l'écriture de tout ça. Ça fait penser à, comment s'appelle Marcel, je ne sais plus, c'est ce romancier français du début du XXe siècle. Ben, il y a une dimension beckettienne, mais proustienne est évidente sur cette espèce de réclusion qui est justement consacrée entièrement à la rédaction d'un ouvrage sur le temps, s'extraire du temps pour parler du temps.
C'est tout et c'est la recherche aussi. J'ai pensé à L'ange exterminateur de Buñuel. Voilà. D'un côté, elle cherche la répétition qui sauve. C'est-à-dire, elle cherche le moment où refaire ce geste-là, ça pourrait la sortir de cette courbe temporelle.
L'invention de Morel aussi, de Bioy Casares, toutes ces espèces de dispositifs qui rendent la réalité totalement circulaire et non plus axée, et dont on cherche à s'extraire. C'est cette espèce de folie narrative.
Oui, ça en fait une littérature assez spéculative où on peut en déduire plein de métaphores.
Oui, mais alors en même temps, c'est très angoissant. Et moi, dès le départ, j'ai commencé à m'angoisser. Il y a quelqu'un dans la maison. Alors ça pourrait être le début d'un Shirley Jackson ou d'un Stephen King. On s'en aperçoit quand la personne bouge dans la chambre du haut, quand elle quitte le lit, quand elle descend l'escalier et va dans la cuisine. En remplissant la bouilloire, elle fait gargouiller les canalisations. Bon, c'est rien, mais il y a dès le départ une pause de la voix qui est assez anxieuse, assez anxiogène, angoissée. Et ça va continuer comme ça pendant 250 pages. C'est très très fort sur le plan et sur le plan de la traduction aussi.
Ouais, et comme c'est écrit à la première personne, on est embarqué dans sa folie aussi. C'est-à-dire on suit ses raisonnements qui sont de plus en plus fous.
Et c'est le temps évidé comme ça. C'est-à-dire c'est pas le monde est pas vide puisqu'elle le remplit en permanence. Elle est bien obligée, sinon ça va devenir la folie totale. Mais c'est le temps évidé. Elle cherche à creuser. Elle cherche comme ça à tourner en creusant. C'est effrayant.
Vous avez dit un mot qui m'a interpellé, la libre interprétation. C'est-à-dire que chacun peut effectivement se reconnaître, se retrouver, aller piocher des questionnements, des interrogations aussi.
Oui, je pense que ça peut devenir une espèce de roman métaphore de beaucoup de choses. Il y a le couple, il y a aussi la question d'une espèce de, peut-être, je sais pas, d'enfermement sociologique aussi à un moment donné de l'histoire où les choses se répètent et quelque chose. Oui, je sais pas.
Ce qui est étrange aussi, c'est qu'elle est libraire. Elle est libraire d'anciens, spécialisée dans les ouvrages illustrés du XVIIIe siècle.
Oui, narratrice, hein, Tara.
Alors, la narratrice. Alors, ce qui est intéressant, puisque bon, ça pourrait être quelqu'un qui a un travail, j'en sais rien, moi, de bureau. Non, alors là, ça crée quand même un imaginaire fort, lié aux objets, lié aux images. Mais malgré tout, même ça ne réussit pas à la sauver. Je veux dire, elle ne peut pas fuir dans un imaginaire qui serait celui de la bibliophilie, de la collection. Elle n'a pas de refuge. C'est ça qui est très impressionnant.
Il y a 7 tomes de ce volume du temps. Le premier et le deuxième viennent de paraître aux éditions Grasset, dans un texte donc traduit par Terje Sinding du danois. Merci à tous les deux. Romain Debecq-Delièvre, François Angelier, vous êtes tous les deux producteurs sur France Culture. François, on vous retrouve dimanche à 15h dans l'émission Mauvais Genre. Toutes les références sont sur le site de France Culture à la page de l'émission où vous retrouverez ce débat critique ainsi que tous les autres en réécoute, tout comme sur l'application Radio France.